VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30, temps universel du monde aujourd'hui. Nous sommes le lundi 18 décembre 2017 au sommaire. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa remplace Jacob Zuma à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. L'opposition congolaise appelle à une nouvelle journée de manifestation demain pour exiger le départ du président Joseph Kabila. La journée internationale des migrants célébrée ce lundi, la situation des migrants en Libye toujours au centre des préoccupations.
Le public a pu découvrir qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui croupissaient dans des centres de rétention en Libye, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement contrôlés par les autorités libyennes elles-mêmes.
Et ici, aux États-Unis, le président Donald Trump décline ses priorités en matière de sécurité nationale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu à la tête du Congrès national africain. Il remplace le président Jacob Zuma à 2 ans des élections générales cruciales pour l'avenir du parti et du pays. Jacques Aristide.
We declare Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress.
Cri de joie, pris en suspense intenable, les résultats annoncés par la commission électorale ne sont pas une surprise totale. Cyril Ramaphosa a été désigné par une majorité des 4776 délégués réunis à Johannesburg. Il a obtenu 2440 voix contre un peu plus de 2200 pour Kosazana Dlamini Zuma, ancien dirigeant syndical et l'une des plus grandes fortunes du pays. Ramaphosa a été appuyé par les vétérans de la lutte anti-apartheid, les syndicats et les organisations de la société civile. Il devrait en toute logique succéder à Jacob Zuma à la tête du pays en 2019. Pour ses partisans, Cyril Ramaphosa, qui a multiplié les critiques contre le gouvernement, est le mieux placé pour redresser une économie plombée par un taux de chômage de 28% et un abaissement des notations de crédit. Il sera secondé dans ses nouvelles fonctions par David Mabuza, qui devient vice-président de l'ANC. Le scrutin est perçu par de nombreux Sud-Africains comme l'événement politique le plus important depuis la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994.
Jacques Aristide, alors, est-ce l'élection de Cyril Ramaphosa est-elle une surprise? Pour une analyse, Clermont et Joubourg a joint tout à l'heure à Pretoria le professeur André Thumahausen de l'Université d'Afrique du Sud.
Pour moi, ce n'est pas une surprise et beaucoup d'observateurs aussi s'attendaient à ce résultat. M. Cyril Ramaphosa a continué la tradition de Nelson Mandela de proposer une politique d'inclusion et pas de division, une politique modérée et pas extrémiste. Ce qui est aussi très important, c'est que la procédure du congrès du parti était minutieuse. Alors ce sera un peu plus facile pour tout le monde d'accepter ce résultat.
Et comment va se passer la transition avec Jacob Zuma?
Bon, il y a un arrêt, il y a un jugement de la cour régionale de Gauteng, que le procurateur de la République doit être considéré comme non nommé et qu'un nouveau, une nouvelle personne doit être nommée qui certainement va procéder avec des charges de plus de 700 accusations de vol et de fraude contre Zuma, qui va continuer, j'espère, dans le mois de février. D'avoir ça offrira une opportunité à Zuma de négocier une démission.
Qu'est-ce qui va changer pour vous au niveau de l'ANC?
L'ANC va reprendre la tradition de 1996, une tradition d'une république inclusive et non raciale, non raciste, menée dans le progrès de l'industrialisation. Et je pense que ce sera plutôt une idéologie de la moitié gauche, une sociologie peut-être de social-démocrate. Il y aura évidemment une faction de gauche, une faction plutôt socialiste, même communiste, mais elle n'aura pas tellement d'influence, je suppose.
C'était le professeur André Thumahausen, joint à Pretoria. Au Zimbabwe, l'armée a officiellement annoncé la fin du coup de force qui a précipité le mois dernier la fin des 37 ans de règne de l'ancien président Robert Mugabe. La normalité règne à nouveau dans notre pays. Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les 5 semaines de l'opération, a déclaré un officier de l'état-major de l'armée. En République démocratique du Congo, l'opposition a appelé ses partisans à manifester une nouvelle fois demain pour réclamer le départ du président Joseph Kabila en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Anastasie Toudiech.
Cette marche a pour objectif d'exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, a affirmé Augustin Kabuya, porte-parole de l'UDPS, parti historique de l'opposition. Selon l'accord conclu le 31 décembre 2016, des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017. Sous pression internationale, les autorités ont publié le 5 novembre un calendrier fixant au 23 décembre 2018 la tenue de plusieurs scrutins, dont la présidentielle, pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Son second et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le Rassemblement, une coalition de plusieurs partis et associations, demande le départ du président Kabila dès la fin de cette année, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser des élections. Une frange de l'opposition réclame une transition sans Kabila. Le 30 novembre, les opposants avaient déjà tenté d'organiser des manifestations interdites par les autorités.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriéré de salaire de novembre et décembre 2013. L'annonce intervient après des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. Vendredi, le FMI a annoncé avoir approuvé le versement d'une 3e tranche d'un prêt de 40 millions de dollars à la RCA, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Le Niger a célébré sa fête nationale ce lundi par un grand défilé militaire à Tawa, à 400 km à l'ouest de Niamey, une zone en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Outre le président nigérien, Mohamedou Issoufou, dont c'est la région natale, 4 chefs d'État, ses homologues du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, ont fait le déplacement pour ce 59e anniversaire de la République du Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain va prononcer aujourd'hui à Washington un discours sur la stratégie des États-Unis en matière de sécurité nationale. Donald Trump va dévoiler un document qui passe en revue les dangers et les défis auxquels le pays fait face en donnant la priorité à son appel à mettre en œuvre son programme « L'Amérique d'abord ». Raissa Girondin.
Donald Trump considère la Chine et la Russie comme les principaux adversaires des États-Unis sur l'échiquier mondial, des concurrents qui, à ses yeux, menacent directement la sécurité et la prospérité de son pays. 11 mois de travail de l'administration Trump dans un épais document sera dévoilé après son discours qui identifie 4 priorités. Protéger le territoire américain, promouvoir la prospérité américaine, préserver la paix grâce à la force et faire progresser l'influence américaine. Son slogan favori « America First » est au cœur de cette stratégie, la compétitivité économique étant un sujet de sécurité nationale, a indiqué un responsable américain. Donald Trump ne considère pas le changement climatique comme une menace pour la sécurité nationale, souligne-t-on à la Maison-Blanche, à la différence de son prédécesseur, Barack Obama.
Et puis les États-Unis ont mis tout à l'heure leur veto à une résolution de l'ONU condamnant leur reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël, un texte approuvé par les 14 partenaires au Conseil de sécurité. Ce vote en faveur formulé par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité, dont les plus proches alliés européens de Washington, Londres et Paris, représente un camouflet pour la diplomatie américaine, présenté par l'Égypte qui a dénoncé les graves répercussions de la décision américaine. Le texte réclamait que la décision annoncée il y a une dizaine de jours par le président américain Donald Trump soit révoquée. Un homme a été arrêté à Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, après que des coups de feu ont été tirés dans une base aérienne américaine. Selon la police, des coups de feu ont été tirés par le personnel de service américain et un homme a été arrêté. Il souffre de coupures et de contusions et a été placé en détention. Aucune autre personne n'a été blessée à la suite de cet incident. Selon une source gouvernementale, une voiture a tenté de forcer le passage à un point d'entrée et une personne a été arrêtée. Un chauffeur libanais de la société Uber, soupçonné d'avoir tué une Britannique travaillant pour l'ambassade de son pays à Beyrouth, a été interpellé aujourd'hui. Rebecca Dykes a été retrouvée morte samedi soir au bord d'une autoroute au nord de Beyrouth, une corde autour du cou et présentant des signes d'étranglement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco présentée par Eric Manirakiza.
Au Sénégal, des jeunes misent sur la culture du riz ou des légumes pour faire fortune. Le riz est la céréale la plus consommée au Sénégal. Cette activité fait revenir à la terre certains jeunes migrants qui ont désormais accès à des semences adaptées et à cycle très court, 80 jours entre le semis et la récolte. Le gouvernement, soutenu par le Fonds international de développement de l'agriculture FIDA, accompagne 120 jeunes cultivant des légumes sur une trentaine d'hectares à l'est du parc national du Delta du Saloum. La prochaine étape sera la transformation et l'agro-business. Le Gabon veut faire du secteur des mines un vecteur important de la relance économique. C'est pour restructurer et diversifier son économie, longtemps axée sur les ressources pétrolières. Pour exploiter ses ressources diamantaires dans le nord et le sud-est, Libreville a rejoint le processus de Kimberley qui fixe les conditions d'exportation des diamants, notamment la certification internationale. Enfin, aux États-Unis, l'aéroport d'Atlanta, qui est le plus fréquenté du monde, était paralysé ce dimanche par une panne d'électricité. Elle a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers, provoquant l'annulation de 900 vols. La panne a également affecté d'autres aéroports, bloquant sur place 300 vols à destination d'Atlanta.
La page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les trois finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2017.
Et oui, les attaquants gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah sont les trois finalistes pour ce Ballon d'Or africain 2017. La Confédération africaine de football a dévoilé cette liste ce lundi. On rappelle que l'Algérien Riyad Mahrez avait été sacré joueur africain de l'année 2016. Ce dernier, qui évolue à Leicester, ne figure même pas dans la liste des 30 nominés. Le favori, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue, l'Égyptien Mohamed Salah, qui flambe depuis le début de saison avec Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'une saison glorieuse avec Dortmund, semble également bien placé. On rappelle qu'il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 31 buts la saison dernière. Le troisième sur ce podium des prétendants, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui joue aussi avec Liverpool.
Messi se prépare pour le Classico face au Real Madrid.
Le FC Barcelone dispose déjà de 11 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga et pourrait creuser un écart important pour le titre en cas de succès ce samedi dans le Classico. Déclaration aujourd'hui de l'attaquant vedette du FC Barcelone, Lionel Messi. Parler de plier le championnat, c'est très compliqué, mais c'est vrai que gagner là-bas nous permettrait de faire un pas de plus vers le titre. Mais il ne faut pas oublier également que l'Atlético Madrid n'est qu'à 6 points derrière nous, a ajouté le joueur argentin.
Manchester City évoque une prolongation de contrat avec Pep Guardiola.
Manchester City, qui aimerait s'attacher les services de son entraîneur Pep Guardiola à long terme, prévoit des discussions avec le technicien espagnol en fin de saison. Guardiola, 46 ans, est arrivé en 2016 en provenance du Bayern Munich avec un contrat initial de 3 ans à la clé. Après une première saison pas à la hauteur des attentes, Guardiola domine actuellement avec son équipe le championnat grâce à une série de records, 16 victoires d'affilée et 11 points d'avance sur Manchester United, le grand rival et le plus proche poursuivant.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Encore un triple-double pour LeBron James, ce qui permet à Cleveland de battre Washington 106 à 99. À Toronto, les Raptors ont confirmé leur bonne forme du moment et leur troisième place de la conférence Est. Nette victoire sur Sacramento, 108 à 93. Détroit domine Orlando, 114-110. Tandis qu'Indiana s'est imposé à Brooklyn, 109 à 97.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Ce lundi est célébrée la Journée internationale des migrants. Depuis janvier, plus de 118 000 migrants ont rejoint l'Europe et 3 000 ont péri en mer. Et pour analyse, Eki Abadou a joint à Dakar Florence Kim du bureau de l'OIM.
Bien évidemment, avec les récents rapports qui sont sortis dans les médias, le public a pu découvrir qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui croupissaient dans des centres de rétention en Libye, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement contrôlés par les autorités libyennes elles-mêmes. Et nous avons procédé au rapatriement de plus de 15 000 personnes qui étaient en Libye et nous avons secouru plus de 2 000 personnes dans le désert du Niger, qui bien évidemment est encore plus meurtrier que la Méditerranée elle-même.
Au dernier sommet, donc, la Libye était présente, elle a parlé de pouvoir travailler main dans la main avec l'Union africaine. Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir pour l'évacuation et le démantèlement des différents centres de rétention en Libye?
Ce n'est pas simplement qu'une position, c'est qu'on le voit par les chiffres, il y a plus de 15 000 personnes qui ont pu être rapatriées et nous comptons en rapatrier à leur demande plus de 15 000 encore entre aujourd'hui et février. Donc, ça nécessite une grande logistique et aussi du côté administratif. Donc, bien évidemment que là, il y a pas un courage politique, mais une volonté politique de travailler ensemble avec l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi que la Libye, pour mettre fin à ces abus et ces violations des droits de l'homme qui sont honteuses.
Il y a aussi ce problème de nombreux migrants qui repartent dans les pays, acceptant aussi, financent l'aide au retour, et qui repartent de nouveau.
Vous savez, dans un premier temps, c'est vrai que ces personnes qui demandent à l'OIM d'être rapatriées, demandent à être rapatriées chez elles, dans leur pays. Elles n'ont pas reçu d'argent à proprement parler, mais simplement d'un petit peu d'argent de poche, quelques dizaines d'euros, ça dépend des pays, pour pouvoir subvenir à leurs besoins immédiats et pour pouvoir prendre des transports pour rentrer jusqu'à leur destination finale. Si on n'offre pas une véritable alternative durable à la migration, bien évidemment, ces jeunes vont vouloir repartir. Ce qui a été mis en œuvre, notamment grâce au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, qui est financé par l'Union africaine et qui est mis en place par l'OIM, lorsque la personne est rentrée chez elle, on offre les moyens pour qu'elle puisse recréer quelque chose, un petit business, chez elle, dans son village. Mais à la différence des autres réintégrations qu'on avait pu pratiquer jusqu'à présent, elles sont désormais collectives. Une sorte d'économie locale, communautaire, pour que ces personnes-là voient qu'il y a quelque chose à faire dans leur propre pays.
C'était Florence Kim de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Au Togo, la coalition de l'opposition qui a manifesté samedi dernier se targue d'avoir mobilisé 1 million de personnes dans les rues de Lomé. Depuis 4 mois, des militants et sympathisants de l'opposition sont dans la rue, ce qui n'est pas sans incidence sur les activités économiques. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Tous les jours, client marche. Si vous prenez l'avenue de la Libération, si vous allez un peu dans la zone de Déco, les magasins sont fermés. Avons-nous besoin de briser le commerce?
C'est un constat sur lequel revient le ministre de la Fonction publique Gilbert Barra, qui se demande s'il faut encore continuer les manifestations du moment où les avancées sont faites pour aller au dialogue. Selon le gouvernement togolais, une journée de manifestation constitue un manque à gagner de plus de 500 millions de francs CFA pour le Togo. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti, comme l'affirment ces commerçantes.
Nous avons un sérieux souci. Tout ce que nous avons perdu, nous n'arrivons même pas à le quantifier. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nos activités n'en soient pas aussi atteintes? Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment.
C'est vraiment, vraiment déplorable parce que nous craignons fort que nos clients nous quittent.
Samedi dernier, la coalition de l'opposition a tenu sa 20e manifestation de rue depuis le 19 août 2017. Kofi Agbenou, devant sa boutique, légèrement ouverte à Dekon, dit comprendre le sens des manifestations.
Nous ne sommes pas là pour exposer ou bien pour vendre. Il faut que la condition s'améliore, il faut que le pays même change d'abord. Et si on dit le pays change, il faut qu'on arrive à avoir une atmosphère plus tempérée. Et si les choses changent vraiment depuis le haut, mais aussi notre quotidien aussi va changer.
Face aux accusations selon lesquelles la coalition de l'opposition veut asphyxier l'économie togolaise, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, se défend.
Dire que est-ce que nous avons décidé d'asphyxier l'économie togolaise? Non. Nous mobilisons les populations pour obtenir l'instauration de la démocratie et l'état des droits au Togo. Nous ne pouvons pas décider d'asphyxier l'économie togolaise. Nous sommes des Togolais. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'économie togolaise est par terre.
Pour Olivier Kouami, de l'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique, il ne faut pas oublier les jours de blackout de l'Internet qui ont sérieusement porté un coup dur à l'économie du pays.
Selon une étude de l'ONG Access Now, une rupture d'Internet coûte à peu près 300 000 à 400 000 dollars US de pertes par jour pour un pays comme le Togo. 5 jours sans Internet, c'est 5 jours de léthargie, c'est 5 jours d'inactivité commerciale. C'est énorme.
Beaucoup d'opérateurs économiques souhaitent qu'une pause soit observée durant la période des fêtes, mais la coalition ne s'est pas encore prononcée clairement sur une tenue des manifestations lors des 15 prochains jours. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Centrafrique, plus d'une centaine de candidats des zones en proie à des violences composent depuis ce matin dans les épreuves du baccalauréat 2017 à Bangui, la capitale, et à Bria, dans l'est du pays. Des examens organisés malgré l'opposition des députés des régions du centre-sud. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Un fait inédit, un baccalauréat national composé en trois phases. La première s'était déroulée en juillet dernier à Bangui et dans certaines régions du pays jugées calmes. En novembre dernier, c'était à Bangassou, dans le sud-est, que ces examens ont eu lieu. Aujourd'hui à Bangui, ce sont plus de 70 candidats, tous des déplacés des zones du centre-sud, du sud-est et de l'est qui composent. Marcel Kembe, président du centre.
Il s'agit des candidats venant des établissements suivants: Zemio, Bangassou, Kembe, Mobaye, Alindao et Bria. Il y a eu ceux qui se sont manifestés après l'appel du ministère au fin de pouvoir organiser exceptionnellement pour eux cet examen. L'initiative prise par le gouvernement, c'est au fin de pouvoir racheter ceux qui n'ayant pas été sur place quand on avait organisé l'examen à Bangassou et qui sont à Bangui.
Ce calendrier établi par le ministère de l'Éducation a surpris les députés des régions du centre-sud. Pour ces élus de la nation, il est inadmissible que le gouvernement ne prenne en compte qu'une partie des élèves de ces zones en proie aux violences. Maxime Garendo, porte-parole du collectif des députés de la Basse-Côte.
Nous, députés de la Basse-Côte, nous opposons fermement contre une telle décision qui n'est pas en faveur de notre population scolaire. Faut-il signaler que depuis quelques jours, la situation sécuritaire dans la préfecture de la Basse-Côte connaît quelques débuts d'amélioration. Il y a un sentiment favorable sur la question du redéploiement de l'autorité de l'État. Fort de tout cela, nous nous élevons contre cette décision et protestons énergiquement contre tout simulacre d'examen organisé à Bangui.
Pour le gouvernement, il était nécessaire de donner la chance à ces élèves qui ont fui leur localité et qui ont la possibilité de composer ici à Bangui. Moukadas Nour, ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
C'est un examen national qui doit se faire à l'échelle nationale et auquel tous les candidats doivent participer. Ils doivent subir ces examens. Autrement dit, ça va être compliqué pour la suite. Parce que fin décembre, c'est déjà les premières évaluations qui vont démarrer dans tous nos établissements. Et ce serait difficile de rattraper. Aujourd'hui, les quelques élèves qui sont ici à Bangui, il est de notre devoir de leur donner cette chance-là. Surtout pour ce qui concerne Alinda et les autres localités. Mais pour Bria, il n'y a pas de problème à partir du moment où le prof du baccalauréat se fait de façon simultanée. C'est-à-dire en même temps que les élèves qui sont dans leur centre respectif subissent le baccalauréat, en même temps aussi, ici à Bangui, les ressortissants de ces centres-là, le Bria, eux aussi subissent le prof de baccalauréat.
Ces épreuves lancées ce jeudi se déroulent simultanément à Bria, dans l'est du pays. Elles prendront fin le jeudi prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Au Cameroun, il y aura désormais un seul manuel scolaire inscrit au programme pour chaque matière, selon le contenu d'un décret du Premier ministre signé récemment. Éditeurs, enseignants, libraires et responsables d'établissements s'en réjouissent. Pour eux, cette décision va mettre un terme aux nombreux manquements constatés dans la gestion du livre et du manuel didactique au Cameroun. C'est ce que nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jutap.
Jusqu'ici, un élève de la classe de 6e au Cameroun avait dans son cartable 4 livres pour apprendre le français. Des livres qui ne sont pas forcément utilisés dans d'autres établissements scolaires par les élèves du même niveau d'études. De quoi donner le tournis aux enseignants, y compris à ceux du cycle primaire où le même principe était en vigueur. Lucien enseigne dans une école primaire privée à Yaoundé.
En tant qu'enseignant, on avait rencontré divers problèmes. Plusieurs livres étaient destinés pour une seule matière et certains élèves n'avaient pas la possibilité d'entrer en possession de.
Avec la pluralité des manuels scolaires inscrits au programme, il y avait pire. La corruption des chefs d'établissement par les éditeurs. Marie-Catherine Minkale, directrice groupe scolaire bilingue.
Nous faisons face à plusieurs éditeurs qui nous rendent visite avec des spécimens de livres qu'ils nous proposent pour l'année suivante. Quand ils apportent les livres à vous, dirigeants, ils vous disent « je vous donne votre jus peut-être de 15 000 ou de 10 000 francs pour que vous reteniez ».
Désormais, le livre retenu au programme sera utilisé pendant 6 ans au moins sur l'ensemble du territoire national. Une nouvelle orientation qui va éradiquer du secteur de l'édition les brebis galeuses. Vincent de Paul Lélé, responsable littérature et édition chez Édition Clé.
Tel que ça marchait jusqu'à présent, vous verrez des distributeurs qui deviennent éditeurs, attirés certainement par l'appât du gain facile, parce qu'on a quelques personnes qu'on connaît à la commission qui, par des subterfuges, vont faire passer des ouvrages à la commission. Vous verrez les imprimeurs devenir éditeur, vous verrez les enseignants qui ont produit des ouvrages qui s'auto-éditent et qui deviennent éditeurs. Vous verrez des inspecteurs pédagogiques qui sont parfois des auteurs et qui deviennent éditeurs. Bref, on se retrouve dans une sorte d'Eldorado où on retrouve tous les chasseurs de primes. Il y aura certainement un tamis qui va s'opérer. On pourrait voir émerger véritablement des gens qui se disent éditeurs.
La gratuité des livres et manuels didactiques pour les écoles primaires publiques dans les zones d'éducation prioritaire a été également inclue dans la nouvelle politique nationale du livre et du manuel scolaire au Cameroun. Professeur Marcel Mvunda et toi, écrivain, enseignant à l'université de Yaoundé 1.
Il y a un souci d'universalisation de l'école qui est réel. Le gouvernement ne dit pas qu'il va offrir nécessairement tous les livres, mais il va garantir la gratuité pour un certain nombre de livres. Et je pense que c'est ce qui se fait dans plusieurs pays. Il n'est pas impossible que ça se fasse et que ça marche dans ce pays, afin que les Mozart ne soient plus assassinés parce que leurs parents n'avaient pas assez d'argent pour les envoyer à l'école.
Des innovations majeures qui ne laissent non plus indifférents les élèves du Cameroun, heureux d'être à l'avenir, moins encombrés par des livres jamais utilisés. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Montoux sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Montoux, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci à Lionel Gaïma qui l'a réalisé, la présentation Abdourahman Dia. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.